Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
À toutes et à tous, bonjour, 11h passées de quelques secondes sur Radion. Le moment est venu de monter à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Et c'est aujourd'hui un formidable personnage, une carrière très longue dans le monde du showbiz. Ça nous change un petit peu des sujets qu'on aborde traditionnellement dans votre émission littéraire. C'est Guy Paqui qui va nous accompagner jusqu'à midi. Bonjour Guy.
Bonjour à tous, bonjour Yannick, et merci de me recevoir.
Merci Guy d'être aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre. Alors tu as fait paraître il y a quelque temps aux éditions Les Presses du Midi, Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs. Alors te présenter c'est difficile parce que finalement tu es né, je peux dire ton année de naissance, j'ai le droit ou pas ?
J'assume complètement, 1938.
Dans le Nord, dans un petit village.
Je suis un produit d'avant-guerre.
Un produit d'avant-guerre, un incroyable, bon produit d'avant-guerre, eh oui. Parce que quand on te voit physiquement, qu'on te rencontre, qu'on voit l'énergie, le sourire, l'enthousiasme que tu dégages, c'est ta vie d'artiste qui t'a offert tout cela ?
Ben, je pense que je suis venu vers l'artistique parce que j'ai été fait comme ça. Je pense que... honnêtement, je n'ai pas de recette. Je ne sais pas du tout. La question m'est posée régulièrement autour de moi. Non, je ne sais pas. Je crois que j'ai eu la bonne dose au bon moment. Quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. J'ai pas de réponse. Alors après, par rapport à ma vie, mon train de vie, j'ai une vie très saine. Je travaille énormément. Je suis un boulimique et j'arrête pas. Là, si on a le temps, on voit en dehors des livres, je suis en train de travailler sur deux albums, je suis en train de travailler sur des tournées. Donc je n'arrête pas et je crois que, comme me l'a déclaré il n'y a pas très longtemps au téléphone mon copain Didier Barbelivien, il m'a dit: Guy, tu fais partie de ceux qui ne s'arrêteront jamais ou il faudra les abattre. Donc j'attends
celui de continuer.
Voilà, j'attends celui qui a la prétention de vouloir m'abattre.
Alors ton dernier ouvrage aussi, c'est avec un caricaturiste et illustrateur, Roth. Ça pour titre, ça c'est un comble. Comment ne pas se prendre au sérieux? Tu ne t'es jamais pris au sérieux dans
jamais.
Tout ce monde des artistes. Et pourtant les artistes parfois doivent se prendre un peu au sérieux.
Certains, oui.
Oui.
Certains, oui, mais les vrais, non.
Alors on parle un peu de toi. Tu nous as expliqué que tu étais un garçon du Nord, que finalement tu avais réalisé ton rêve d'enfant parce que tu voulais très jeune devenir artiste. Il faut dire aussi que tu as un début très, très musical, tu es trompettiste.
Alors, pendant la guerre, j'avais un tonton qui était le... Il n'était pas encore le mari, il était le fiancé de la plus jeune sœur de maman, donc il était trompettiste. Et j'étais en admiration quand il jouait. J'avais 4 ans, 5 ans. Et à partir de 8 ans, je suis rentré, c'est-à-dire tout de suite après la guerre, je suis rentré à l'harmonie municipale. Mais avant d'avoir un instrument, on faisait 2 ans de solfège. Et c'était fastidieux, mais pour moi, c'est nécessaire pour être musicien. Et à partir de là, à 10 ans, mon envie, c'était bien évidemment jouer de la trompette. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais passionné par les grands orchestres. Et à l'époque, c'était Jacques Ellian, c'était Ray Ventura, et mon idole, c'était un trompettiste qui s'appelait Aimé Barelli, qui a, pendant de nombreuses années, été l'orchestre attitré du Sporting Club de Monte-Carlo, dont l'épouse était une chanteuse qui s'appelait Lucienne Delisle, qui en réalité n'était pas du tout de Lille, mais de je ne sais où, enfin peu importe, ça c'est pour l'anecdote. Et dans cet orchestre, il y avait un jeune animateur, chanteur-animateur, qui s'appelait José Bartel. Et j'avais déjà été impressionné par les performances de ce garçon. Et donc j'avais 10 ans, 11 ans. L'année suivante, dans un théâtre près de Besançon, à Anzin très précisément, passe l'orchestre de Reventura. Et là, même topo, si ce n'est que chez Reventura, c'était... Les musiciens étaient également comédiens, ils chantaient tous. C'était la preuve, c'est qu'ils ont tourné plusieurs films, Nous irons à Paris, Mademoiselle s'amuse, Nous irons à Monte-Carlo, etc. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était justement l'animateur de cette formation de Ray Ventura, qui n'était autre que Henri Salvador.
Que tu adores.
Bah oui. Ça a été mon coup de cœur. Et quand on est sorti de ce théâtre, j'ai dit à mes grands-parents, tu vois, Pépère, je sais ce que je vais faire. Et ma vie était tracée. 4 ans après, je montais mon orchestre. J'avais 16 ans.
Alors, ton premier cachet, tu l'as eu à quel âge ?
L'année de mes 16 ans, c'était le 31 décembre 54. Et j'ai eu mes 17 ans le 10 février 55. Quoi.
Dans les aspects moins drôles, tu as fait ton service militaire.
Oui.
En Algérie.
Alors.
En très grande partie en Algérie.
Tout en Algérie. Je suis parti là-bas en civil. Donc là, il s'est passé quelque chose de particulier, à savoir qu'avec mon orchestre, on jouait tous les week-ends. Et le 31 décembre, donc le 31 décembre 58, donc l'année, j'ai eu mes 20 ans en février 58, le 31 décembre, en un mot, le 1er janvier, je suis rentré à 6h du matin et on était à notre quatrième ou cinquième soirée depuis sur les 8-10 jours qui précédaient. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis abaissé pour enlever mes chaussures et je n'ai pas pu me relever. J'avais une douleur terrible dans le côté droit. Donc, je suis arrivé à me traîner jusqu'au lit, mais le lendemain, mes parents ont appelé le toubib et vu rien, bon, c'est une fatigue. C'était rien de plus. Si ce n'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai fait de la fièvre. Le toubib est revenu et là, ils ont décelé une pleurésie. Donc, pleurésie à l'époque, c'était pas bénin, quelque part. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec, tout un traitement, bien sûr, surtout du repos. Et un mois et demi après, donc, c'est-à-dire le début février, j'ai reçu ma feuille de route pour partir en Algérie. Donc évidemment, certificat, appuyant, etc. Je suis rajourné d'une année. L'année suivante, je me présente à nouveau au conseil de révision. Ça allait mieux. J'étais parti pendant 6 mois en maison de repos, pas n'importe où. J'étais carrément à Megève. Et je me suis donc représenté un an après. Et là, on me rajourne une seconde année. Donc, en un mot, comme beaucoup auraient pu le faire, j'en ai connu parmi mes amis d'enfance, quand je me suis représenté pour la troisième fois, j'avais un choix, être réformé ou être à nouveau, ou de partir. Et là, avec le caractère que j'ai, dans ma tête, si je n'avais pas fait mon service, j'aurais pas été un mec. Donc, je me suis porté volontaire. En un mot.
Pas de regret ?
Aucun.
Qu'est-ce que tu as conservé ? Rapidement, ce n'est pas le thème de l'émission, mais qu'est-ce que tu as conservé de ces 30 mois de service militaire en Algérie ?
Déjà, on a vécu des choses pas sympas. Hein, et là, sans faire de politique, je suis outré par les déclarations, notamment de celui qui nous gouverne aujourd'hui. Je ne me sens pas être un assassin. Je n'ai absolument pas de repentance à faire. C'est une très grosse erreur. Il faudrait qu'il étudie d'un peu plus près le dossier. Il ne sait pas de quoi il parle et c'est dommage. Et dans beaucoup de domaines, je pense. Enfin, toujours est-il, moi, ce que je peux constater, c'est que quand je suis arrivé au service militaire, donc j'avais 22 ans, j'avais déjà pas mal roulé ma bosse. Je gagnais déjà bien ma vie. Et je suis tombé sur des gars qui sont restés vraiment des potes très... des amitiés qui sont liées sur le terrain, qui sont arrivés. J'ai écrit à plusieurs reprises à des nanas, parce que le gars ne savait ni lire ni écrire. Et j'ai découvert... moi je suis originaire du Nord, papa ouvrier, maman à la maison, comme c'était beaucoup le cas. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance au niveau éducation, au niveau ouverture d'esprit. Et là, tu tombes sur des gens. J'ai un copain qui était originaire de quelques 30 km de Montluçon. Quand il a pris le train à Montluçon, non seulement c'était la première fois qu'il montait dans un train, c'était la première fois qu'il voyait un train. Alors je ne te dis pas, quand il est arrivé à Marseille, qui a découvert la mer et qui est monté sur un bateau. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il faut retenir, et, enfin pour moi. Et je sais que ça m'a ouvert l'esprit sur la vie et puis sur les gens, sur l'amour des autres. Et je me suis toujours considéré comme un marchand de bonheur, puisque notre but, artiste notamment, la vocation d'un artiste, c'est d'amener du bonheur, d'amener... des moments de détente dans la griserie de la journée, les gens qui ont fini leur journée, les emmerdent, les fins de mois difficiles, etc., etc. Ils viennent à un spectacle, ils doivent en sortir réjouis et heureux.
C'est Guy Paquis qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. On rappellera donc petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs, c'est aux Presses du Midi et chez le même éditeur et plus récemment. Ça, c'est un comble. Comment ne pas se prendre au sérieux? Guy, on marque une petite pause musicale et on se retrouve
avec plaisir
dans une poignée de minutes.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Guy Paquis nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. Guy Paquis, c'est pas ton vrai patronyme. C'est un nom d'emprunt. Explique-nous d'où ça vient, Paquis.
C'est une petite histoire mignonne. Disons que quand je suis rentré d'Algérie, bon, il m'a fallu à peu près 2 ans et demi pour me refaire une santé. Bien évidemment, je dormais très mal, comme beaucoup qui ont vécu ces horreurs. Et puis, je m'étais installé à Saint-Amand-les-Eaux, donc à une vingtaine de kilomètres de Valenciennes. Et un beau jour, il débarquait une émission qui s'appelait Interville, avec le fameux Jojo, qui était le maire de Saint-Amand, qui était devenu une vedette en l'espace de quelques émissions. Et j'ai assisté à cette émission. Bon, voilà, ça passait dans mon laine, donc on s'est retrouvés dans les gradins. Si ce n'est que j'avais repéré, du côté artiste, c'est qu'il y avait des épreuves avec les vachettes, puisque c'est Saint-Amand, Comte d'Ax, etc. Et il y avait une épreuve musicale. Et notamment avec l'orchestre, un orchestre qui s'appelait, à l'époque c'était l'orchestre de Robert Trébor, qui était un agent dans le Nord, et j'y ai retrouvé 2-3 copains de conservatoire, et ce qui fait qu'à la fin, ben, on s'est retrouvés, je suis allé les voir, on a discuté, et 3 mois après, je repartais avec eux dans l'orchestre, mais comme chanteur-animateur. J'avais abandonné, suite à ma pleurésie, donc déjà pendant les 2 ans de réforme, je n'avais pas rejoué, mes 30 mois en Algérie, donc pendant pratiquement 5 ans, je n'ai pas joué, et je n'ai jamais repris en fait la trompette.
Donc finalement, Guy, tes débuts, tu as fait des débuts en tant qu'artiste, et puis ensuite tu as décidé de devenir manager, de prendre en charge, en main, la carrière d'autres
personnes.
Alors
ça arrive après, mais on va revenir au pseudo. C'est que quand j'étais dans l'orchestre, c'était un orchestre attractif, comme on les appelait, on ne faisait pas les bals populaires, on ne faisait que des soirées de gala. Donc c'était le bal de la gendarmerie, le bal de ceci, le bal de cela, où le public était bien souvent en costume, si ce n'est en smoking, les femmes en robe longue, etc. Et nous, sur scène, on était en smoking. Et parallèlement à ça, dans ces soirées-là, il y avait souvent des attractions. C'est-à-dire un chanteur qui venait... Alors, où c'était du jazz. Alors, on a travaillé avec des intermèdes de Maxime Sory, Claude Luther, Marc Laferrière, etc. à cette époque-là. Donc, c'est la fin des années 60. Et on a eu des attractions également, dont Delpech, les Charlots, Antoine, avec qui je suis devenu très, très, très pote très vite. Et parallèlement à ça, donc mon agent avait décidé, puisqu'il me proposait seul pour présenter des spectacles, pour animer et faire des animations de spectacles. Et il m'a dit, bon, il faudrait qu'on fasse, j'ai de la demande, il faudrait qu'on fasse une affiche. Donc on a fait une séance photo, mon vrai nom étant Dussard. Bon, sur une affiche, ça faisait un peu bizarre, quoi. Donc ça sonnait pas comme il sentait. Et il me dit, il faudrait trouver quelque chose de plus original. Et je dis, bah, écoute, ma petite copine du moment, elle s'appelle Paquita. Pourquoi pas Paquita? Alors il me dit, Paquita, il faut pas pousser. Donc on a sucré le tas. et le nom est arrivé. Donc ça remonte à fin 67, début 68, où je me suis appelé Guy Paqui.
Et c'est donc Guy Dussard-Paqui qui est devant nous, mais tout le monde te connaît sous le nom de Guy Paqui.
Ah ben dans le métier, à part ceux qui m'ont fait des bulletins de paye à une époque, personne ne sait que j'ai un autre nom que le nom de Paqui, quoi.
Alors dans les années 70, au début des années 70, Guy, donc tu te lances dans les animations alors commerciales, tu travailles pour différentes marques, on va dire Cuisinier,
tout à fait.
Par exemple. En 72, tu es animateur à l'émission Interdance de
Jodona
sur France Inter.
Tout à fait.
Et puis, tu vas devenir en 75 le manager d'un groupe. Alors, c'est les Martin Circus.
Ouais.
Alors, il y avait la chanson Marilyn. Et puis, je m'éclate au Sénégal pour rafraîchir un peu la mémoire.
La petite histoire des Martin. En fait, à cette époque-là, je travaillais beaucoup avec le Jacques Francini, le clown Francini du duo Alex et Francini. Mais Alex avait pris, il avait un certain âge, il était très fatigué, et Jacques s'est retrouvé tout seul. Donc on s'est retrouvé à faire, on s'est retrouvé tout simplement chez Guy Lux, et j'ai commencé parce que j'avais monté donc une équipe d'animation, j'avais monté mon propre podium, et j'avais des exclusivités avec des grands magasins, notamment avec les chaînes d'Edouard Leclerc. Et j'invitais des personnalités, non pas à venir dédicacer, mais à venir animer avec moi. Ce qui fait qu'à cette époque-là, j'ai amené Guy, Lux, bien sûr, j'ai amené Daniel Gilbert.
La grande Duduche.
La grande Duduche. Déjà, sans fausse prétention, je l'ai sorti un peu de l'écran, puisque jusque-là, ce genre de truc en public, elle ne l'avait jamais fait. J'ai sorti Evelyne Leclerc de sa petite cage également, tout simplement parce que à l'époque, c'était l'ORTF, et quand tu étais sous contrat avec l'ORTF, on n'avait pas le droit de faire des choses à côté. J'ai rencontré sur les boulevards un gars avec une grosse caisse qui tapait, etc. C'était Rémi Brica. Je l'ai emmené dans mes trucs. J'ai eu le clown Bobos, Casimir, que j'ai sorti également de la télé, quelque part. Enfin bon, et avec Antoine, bien évidemment, où on a fait vraiment des trucs complètement fous, quoi. Et par rapport à ça, avec Foncini, on part en tournée avec le Cirque Spirou et avec Jacques Courtois, le ventriloque qui a été le premier ventriloque véritablement connu par les émissions de Jean Noël, et avec la fille et les deux fils d'Achille Zavata. Et sur cette tournée, il y avait une jeune, elle était chanteuse, présentatrice, etc., qui a été Cosette dans Les Misérables, dans la version de Le Chat Noir, quand elle avait 7 ans, 6 ans, 7 ans, et que j'ai véritablement connu 20 ans après. Elle présentait cette émission avec Jacques Courtois. Et un jour, j'étais donc avec Foncini au programme de cette émission, et un jour sont arrivés les Martin Circus. Et ils venaient justement présenter leur fameux Sénégal. Et puis, bon, j'avais sympathisé avec le batteur à cette époque-là, et puis on s'est perdu de vue. Et le groupe a changé de direction artistique. Et au moment où ils ont sorti Marilène, moi j'habitais Longjumeau, avec Martine Ave, donc la petite Cosette, et René Guérin habitait à Massy-Palaiseau. Et un jour, on s'est rencontrés, je faisais une animation avec Jacques Martin, et je suis retombé dessus. On a sympathisé. On se voyait régulièrement. Un beau jour, il me téléphone, il me dit « Écoute, je suis en carafe, je ne sais pas comment aller, j'ai rendez-vous à Paris, à Neuilly, pour partir en gala, est-ce que tu peux m'emmener ?» Il n'y a pas de problème. Donc je l'emmène au bureau à Neuilly. Quand j'arrive au bureau à Neuilly, je tombe sur leur manager, qui n'était autre qu'un ami que j'avais déjà connu avant, secrétaire de Richard Anthony. Là, au moment où on est en train de discuter, de se retrouver, téléphone du régisseur, on s'est fait voler la Mercedes. On fait quoi? Ben, je dis, écoutez, si ça peut vous dépanner, moi j'avais un gros Brad Ford, un Granada Ford à l'époque, ben, si ça peut vous en servir, je vous emmène. Je les ai emmenés à Reims pour leur gala et je suis resté avec eux 4 ans et demi.
Alors en 76, tu rencontres un chanteur que chacune et chacun connaît bien, c'est Michel Sardou.
Alors, Michel, je l'avais rencontré déjà en 72. On s'était croisés, puis on avait discuté. Mais avec les Martin Circus, justement, on se retrouve à faire la première partie de Michel. Et là, ben, il y a un courant qui est passé avec lui. Et c'est très marrant parce que ce soir-là, j'ai des invités qui l'ont bien connu et qui travaillent encore avec lui maintenant. Donc pour sur cette tournée, c'était la tournée très difficile où il avait déclaré qu'il était une chanson « Je suis pour »,
oui,
qui a été très mal interprétée par les gens, le fut-il genre qu'il était pour la peine de mort. Or, c'est pas du tout le thème de la chanson, il n'est pas pour la peine de mort, il était tout simplement pour la loi du talion. C'est-à-dire, tu touches un cheveu à ma fille, moi t'es mort, point. Alors, ça peut s'admettre, ça peut. Voilà. Mais là, on est tombé sur des malades. À Toulouse, ils avaient mis le feu au chapiteau. À Bruxelles, on avait carrément la cavalerie dans les couloirs du Forest National. À Avignon, ils défilaient au plat de Loire avec des manches de pioche. Enfin, de trucs de fou, quoi. Et puis, et on a refait une deuxième tournée en 77 avec Michel, qui s'est terminée d'ailleurs à Besançon. Il restait 3 dates derrière et tout le monde a craqué. Et moi, je suis rentré avec ma voiture. J'ai pris des pavés sur le pare-choc. Je suis rentré. J'ai toutes mes dents. J'ai mes 32 dents et 2 dehors, comme dirait l'autre. Et la seule dent cassée que j'ai, c'est bagarre à Besançon à cause de Michel. Mais, indépendamment de Michel, j'ai également lié d'une très grande amitié. On s'était déjà croisés en cabaret, et en levée de rideau, c'est comme ça que ça s'appelait, il y avait un phénomène qui est devenu tout simplement Patrick Sébastien.
Alors, on va faire une nouvelle petite pause musicale, et puis tu nous parleras de ton petit frère. Parce que Patrick Sébastien, c'est ton petit frère, d'une certaine
manière. Moi, je le considère comme ça. C'est pas Patrick Sébastien. Pour moi, c'est Patrick Bouteau.
On y revient juste après. Nous sommes avec Guy Paqui pour Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs. Et puis le dernier ouvrage, ça c'est un comble, comment ne pas se prendre au sérieux. Ces deux ouvrages sont disponibles aux presses du midi. Nous revenons juste après la petite pause musicale que nous vous offrons.
The love brown wood is burning.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Tout va bien, Guy ?
Merveilleusement bien, merci.
Alors, petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs aux presses du midi. Et puis, on rappellera, ça c'est un comble, comment ne pas se prendre au sérieux, toujours aux presses du midi. Guy, avant la pause musicale, tu avais commencé à parler d'un gros déconneur qu'on connaît bien à la télévision, c'est Patrick Sébastien. Alors, comment l'as-tu rencontré et comment as-tu été amené à tant le côtoyer ? Moi, je sais, je connais la réponse.
Disons qu'on s'était déjà croisés en cabaret, mais voilà, sans plus. Pour moi, il avait un talent, il bousculait un peu les codes du domaine de l'imitation. Et puis, on s'est retrouvés sur la tournée de Michel. Et je crois que c'était la deuxième date. On a mangé ensemble dans un restaurant à Orléans. Et puis, donc, on a beaucoup discuté à table. Et il m'avait confié, il m'avait dit, écoute, parce que sur la tournée, en fait, je me suis indirectement occupé de lui. Et tout en m'occupant des Martins, bien sûr. Et puis, dans la discussion, il m'avait dit... tu sais, si ça marche pour moi, j'ai promis à mon meilleur ami d'enfance de le faire venir pour m'épauler, pour me servir. Et effectivement, c'était donc Olivier, Guillaume. Donc Olivier, c'est le barbu de licence 4 qui s'est coup sur coup avec le fils de Patrick, ils se sont plantés tous les deux, l'un en moto, l'autre en voiture, et ça a été des moments très difficiles pour Patrick. Et à partir de là, avec Patrick, on a été très proches. On se voyait régulièrement, on a tourné sur tout un tas de trucs ensemble, et puis notamment sur la tournée de 77 avec Michel Sardou, il avait fait un aller-retour entre le samedi soir, je crois que c'était à Valence, et le lendemain à Avignon, ou l'inverse, je ne sais plus exactement, il avait fait un aller-retour sur Paris pour présenter avec Evelyne Leclerc sur TF1 la présélection de l'Eurovision. Et là, il est tombé fou amoureux d'une candidate qui va gagner l'Eurovision quelques mois après, c'était Marie.
Marie Myriam.
Voilà. Bon. Ça, c'est l'opération. Partant de là, l'été, il est en tournée avec Serge Lama, Marie est en tournée avec François Valéry, et moi, j'anime une croisière sur un bateau russe, et je me retrouve jusqu'à la calotte glaciaire, jusqu'au Spitzberg, toute la mer du Nord, etc. Et quand je rentre de cette croisière mi-août, je débarque avec mon épouse chez mes beaux-parents dans une villa sur les Hauts-de-Grâce. Et quand on arrive sur la Côte d'Azur, on voit le soir même à Grasse affiché Michel Sardou. Bon, donc bien évidemment, notre soirée était calée, on débarque. Et quand j'arrive, Michel me dit, écoute, je ne sais pas ce que tu fous, mais Sébastien, il te cherche partout. Il est en tournée avec Lama, ça fait trois fois qu'on se croise, à chaque fois il me dit « t'as des nouvelles de Guy, t'as des nouvelles de Guy ». Bon, donc en réalité on se renseigne, le surlendemain, Lama est à Menton. Donc en réalité, on débarque à Menton. Et là, Patrick, enfin te voilà, et il me dit « voilà, depuis l'Eurovision, il s'est passé plein de choses, je me suis mis en ménage avec Marie, et je veux que ce soit toi ». T'en occupe.
Pendant combien d'années as-tu pris soin de Marie ans. Myriam
4 ans. Et avec eux, j'ai vécu des moments d'intimité merveilleux, très forts. On a fait beaucoup de choses. Je suis allé au Canada avec Marie. On a fait vraiment des choses énormes. Le hasard, j'ai retrouvé Yves Brunier. Le papa de Casimir, en faisant une télé rue Cognac-G, il me dit « Ah, Guy, je suis content de te revoir », etc. Puisque indirectement, c'est moi qui l'avais envoyé à Christophe Izard. Et sans savoir qu'il créerait Casimir, bien évidemment. Et puis Christophe Izard, quand il m'a vu, il me dit « Écoute, merci en gros de lui avoir envoyé Yves. Et partant de là, il m'appelle le lendemain et me dit « Écoute, j'adore Marie-Myriam. Est-ce que tu penses qu'elle accepterait de tenir un rôle dans L'île aux enfants ?» Bah, je dis « Écoute, je vais lui en parler, mais sachant comment elle est, qu'elle adore les enfants, je pense qu'il n'y aura pas de problème. » Donc il a écrit un rôle, Marie Chanson, c'était tout simplement une journaliste qui venait régulièrement, une fois par mois, dans L'île aux enfants, rendre visite, faire un reportage. Et on a fait 2-3 albums avec toute la clique. Et...
Je t'imagine bien, Guy, en train de partager avec Marie-Myriam et Patrick Sébastien un gros bol de gloubi-boulga. Tu te rappelles le gloubi-boulga?
Tu m'étonnes. Ouais, non, mais ça a été des moments, c'est difficile à expliquer, dans la mesure où il y a tous les gens avec qui j'ai travaillé, ben, je les ai aimés tout simplement, mais je les aime toujours et c'est toujours réciproque. Et dans ce livre...
Petite histoire du showbiz.
Qui fait 340 pages, ou pas très loin. Il aurait pu être deux fois ça. Mais il y a des choses d'une... Il y a des troisièmes mi-temps, par exemple, comme dans le rugby, qu'on ne peut pas raconter. Il y a des anecdotes un peu trop poussées qu'on ne peut pas raconter. Et puis, il y a également des anecdotes que je m'interdis de raconter dans la mesure... ou que ce soit avec Marie, que ce soit avec Patrick, que ce soit avec Michel, avec Hervé Villard, avec Michel Thor, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Si j'ai eu la chance de travailler avec eux, ils m'ont fait confiance. J'ai vécu dans leur intimité. Donc j'estime qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler.
Alors par exemple, au printemps 1982, on te demande de t'intéresser à un jeune chanteur, assez beau gars, qui s'appelle Jean-Luc Lahaye.
Ouais.
Et Jean-Luc Lahaye, finalement, tu ne l'as pas senti, quand bien même tu le dis charmant, c'est un garçon que tu n'as pas senti dès le début.
Dès le début. Alors, c'est un garçon adorable. Hein. On a passé une soirée ensemble au mois de janvier là, de cette année. Mais je ne sais pas, c'est un ami qui était producteur de Daniel Guichard à l'époque et qui me dit, écoute, voilà, j'ai rencontré, il vient de sortir un 45 tours, ça va faire un malheur, il a besoin d'un manager, je lui ai parlé de toi, il voudrait te rencontrer. Et le hasard de la programmation, je tombe sur lui 3 jours après à la télé. Quand il a terminé son truc, l'interview et tout ça, j'ai rappelé mon poste. Je dis, écoute, Jean-Louis, annule ton rendez-vous pour demain. Je ne le sens pas, il ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, mais t'es fou, tu vas gagner un pognon fou, etc. Je dis, mais tu sais très bien que mon moteur dans ce métier-là, ce n'est pas l'argent. Moi, c'est ma passion, c'est la scène, c'est l'artistique, c'est pas les royalties. Et il m'a dit, tu regretteras. Et j'ai jamais regretté. Donc, alors, ça n'empêche pas qu'il a beaucoup de talent, qu'il a, etc. Mais voilà, il y avait un énième sens, son comportement, etc. Ben, il ne peut pas aller... avec ma vision, disons, de la moralité qu'on doit avoir. Quoi.
Tu as 2 belles rencontres. Alors, des rencontres, il y en a plein dans ta vie. Hein. Mmh. C'est époustouflant, c'est même à couper le souffle. Tu es fou de joie lorsque tu passes, je crois, une après-midi avec le chanteur et comédien Georges Guettari.
Ah, oui, oui.
Et puis, il y a un grand monsieur du cinéma français sur lequel tu as écrit un livre, c'est le cinéaste Jean Delannoy, dont on commémore d'ailleurs cette année le 110e anniversaire de la naissance. Ouais. Jean Delannoy, c'est la symphonie fastorale, Notre-Dame de Paris, ou encore un Maigret avec Gabin. Et tu as rencontré du cinéma français.
Il y a 5 Maigret avec Gabin. Il y a l'affaire Saint-Fiacre, il y a Maigret dans un piège, je ne sais plus, je les ai payés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre est sorti en 2010, malheureusement 2 ans après sa mort, et aux mêmes éditions.
Les Presses du Midi.
Les Presses du Midi. Et là, mon éditeur, je serai donc sur son stand les 16, 17 et 18 novembre au Salon du Livre de Toulon. Et à l'occasion de ce Salon du Livre, il me ressort ce bouquin de cinéma. Donc de Jean, avec une surprise que je n'attendais pas. Un très beau cadeau de Noël l'année dernière. Le 26 décembre, je reçois un appel de la Gaumont en me disant, voilà, on est en train de préparer, ça va sortir au mois de juin l'année prochaine, donc c'est-à-dire cette année. On ressort un film de Jean Delannoy, à savoir, ça s'appelle Obsession, avec Michel Morgan et Ralph Vallone, où c'est un thriller dans un cirque avec un couple, donc ils sont un couple de trapézistes. Et à l'époque, les images le prouvent, il n'y a pas de trucage, le numéro trapèze a véritablement été fait par les deux. Et donc ils souhaitaient avoir un bonus dans le DVD. Et j'ai accordé une interview qui a été mise en... Donc c'est sorti au mois de juin, et il y a ce petit clin d'œil à Jean Delannoy, donc, qui dure à peu près trois quarts d'heure, un même topo, où je parle plus cinéma et de ma relation avec Jean, qui a été pour moi un grand moment de bonheur.
Alors un autre monsieur, alors qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est celui qui animait l'émission 36 chandelles. C'est-à-dire c'est une émission de divertissement en public et en direct.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est Jean Nohain.
Jean Nohain, ouais. Alors quand je suis arrivé à Paris, je suis venu me réinstaller définitivement fin 68, je suis arrivé avec une lettre de recommandation de mon agent. L'agent à l'époque qui était l'agent à l'autre époque de Lynn Renault, de Mariano, etc., etc. Et quand je suis arrivé avec ma lettre de recommandation, donc quand j'arrive, j'ai 30 ans quand même déjà. Et là, ce bon Jean Nohain, très, très ravi d'avoir, j'ai toujours cette lettre de recommandation dans mes archives. Et quand il dit, mais mon jeune ami, à quel âge vous avez commencé? Parce qu'imagine, tu vois, là, on m'en donne en général au minimum 15 de moins. Alors imagine, à 30 ans, j'avais la gueule d'un gamin, quoi. Je faisais à peine la vingtaine, quoi. Donc, pour lui, ça le dépassait un peu, quoi. Et puis, bon, quand je lui ai expliqué, il y a quelque chose de très fort qui s'est installé entre nous. Et puis, on a fait toute une tournée et on partageait la même caravane. Et là, il y a une petite anecdote très mignonne que je raconte dans le bouquin. C'est que j'avais pris l'habitude... je terminais, parce que moi j'intervenais plusieurs fois indépendamment du numéro de clown avec Jacques Francini. J'étais le faire valoir, j'étais pas en clown blanc, j'étais en tenue de scène normale. Et j'avais pris l'habitude, Lydia Zavatta tenait un stand, une buvette, et autour du chapiteau, elle vendait des cacahuètes, mais les cacahuètes à décortiquer. Et donc, tous les jours, je m'achetais mon paquet de cacahuètes. Et puis, dans ma loge, en attendant la reprise de l'entraille, je bouffais les cacahuètes. Et puis, un beau jour, Jean Nohain dit, Jean, si vous... Alors, il a commencé à décortiquer, mais moi, j'en mangeais cinq quand il en suçait une, quoi. Tu vois, il avait ce faciès un peu déformé, victime de... Il faisait partie des gueules cassées. Il était pilote ou commandant de char pendant la guerre 14, et puis bon, il a eu cet incident. Et puis un beau jour, on était dans la région des Sables-d'Olonne, et il faisait toute la tournée dans une méhari. Donc c'était assez folklore. Et un beau jour, il rentre et il me demande si je peux l'aider. Et il avait deux cartons de 6 bouteilles de vin d'Entre-deux-Mers. Il avait visité dans la journée, et on lui avait offert deux cartons de... Bon, donc moralité, je mets les deux cartons de... les 12 bouteilles d'Entre-deux-Mers dans la caravane, et puis le lendemain, on est en train de grignoter les cacahuètes, et il me dit, mais mon petit paquet ici, on se buvait un petit coup de blanc avec les... Ben pourquoi pas? On débouche une bouteille de blanc. Et tous les jours, on se buvait un petit coup de blanc en bouffant nos cacahuètes. Mais quand on est à la tournée, c'est terminé à Trouville. Au moment de faire le truc, ben on avait vidé les 12 bouteilles de blanc. Et il n'en revenait pas, mais j'avais pas des bouteilles de blanc dans la caravane. Mais je dis, mais Jabou, non, on les a bu. On a bu les 12 bouteilles. Ben, je dis, écoutez, ça fait 40 jours qu'on est en tournée quand même.
Guy Paqui, petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs. Et on mentionnera aussi, ça c'est un comble, comment ne pas se prendre au sérieux aux éditions Les Presses du Midi. Dernier intermède musical et le moment viendra de conclure, Guy. Wagon Livre, votre émission littéraire. Guy, le temps passe très vite avec toi. Je voudrais tout de même, avant qu'on ne se quitte, que tu nous parles du groupe Gold, qui a été une aubaine dans ta carrière. Et c'est en 96.
Ouais. Oui, disons que... Avec des hauts et des bas. Disons que quand le groupe avait implosé en vol, quand Émile les a quittés, Émile est parti aux États-Unis, il a fait un album sous le nom d'Émile Van Der Mel, très bon album, chez Touchstone en France, et a priori personne n'en a voulu. Donc Émile seul, personne n'en voulait, le groupe sans Émile, personne n'en voulait. Dans la mesure où c'était toute une couleur musicale, on va dire, et un beau jour, donc en 93, je fais une très très grosse tournée pour la Française des Jeux. Je gérais 145 personnes et 33 semi-remorques plus 2 tourbus. C'était un spectacle grandiose, enfin un truc de fou. Et puis, petit problème sentimental, etc., etc. Et j'ai le geste fatal que je ne conseille à personne d'avoir parce que personne ne mérite ce geste-là, si ce n'est que je me retrouve dans le coma pendant une bonne semaine. Et m'en sortant, j'avais cette hargne de vouloir me prouver que tout irait bien. Un mois et demi après, je repartais en tournée. Et à partir de là, quand je suis rentré de tournée, le 24 décembre, il m'a fallu à peu près un an et demi, 2 ans pour me refaire une santé. Et là, j'ai beaucoup écrit. J'écrivais. Je voulais comprendre les pourquoi du comment. Et donc j'ai eu quelques réponses, je n'ai pas tout eu, et je ne les ai toujours pas, et je ne les cherche plus, puisque tout va bien. Et puis un beau jour, j'ai un ami qui gérait tous des personnages de discothèques, c'est-à-dire de Patrick Hernandez, Boney M, etc., etc. Et comme j'étais copain avec Bobby de Boney M, il passait dans la région vers Belfort, et je vais pour les voir, et leur producteur m'a dit, écoute, je viens de reprendre ce contrat pour les faire tourner le groupe Gold, mais j'ai personne chez moi qui connaît le live. Chez nous, tout le monde travaille, c'est produit discothèque, travaille sur bande, etc. Et il me dit, avec ton expérience des Martins, est-ce que ça t'intéresserait de les récupérer ? J'ai dit, pas de problème. Donc, une semaine après, je me retrouvais avec le groupe Gol que j'avais déjà rencontré quelques temps avant. Et en fait, ça m'a, moi, redonné confiance. Et je n'avais pas remis le pied à l'étrier véritablement, à part que j'écrivais, mais le métier, je le voyais en flou par rapport à ce qui m'était arrivé. Et j'ai remis le pied à l'étrier, et au bout de 6 mois, donc j'étais en fait leur road manager, et au bout de 6 mois, un jour, on était à Grenoble pour les 6 jours de Grenoble, et là, ils m'ont dit, écoute, voilà, on s'est bien consulté, on a besoin d'un manager pour nous remettre sur les rails, est-ce que tu serais partant pour prendre le poste? Donc je me suis retrouvé leur manager. Et à partir de là, j'ai dit, OK, mais il faut bosser, il faut qu'on sorte un album. Et on a travaillé, et donc il fallait trouver la maison de disques, etc., etc. Et là, on n'a eu que des dévennes, des coups pas possibles. On fait un enregistrement au studio à Polygon, à Toulouse. Et puis, il doit sortir en 99. Donc, je monte une tournée de promo pour l'annoncer tout le mois de décembre 98. Il doit sortir le 24, par là, 24 ou 26 janvier. 3 jours avant, le directeur de production de la maison de disques, qui est une boîte hollandaise, m'annonce que la maison est
en
redressement judiciaire, que l'album passe à la trappe. Bon, là, on me fait une proposition honteuse. On me dit, mais comme ça, si tu veux, on peut t'en tirer 5 000. Et puis, je dis, non, moi, je ne bouffe pas de ce pain. Ce que je veux, c'est le contrat. Donc, je me suis bagarré avec les Hollandais. Ça a duré 3 mois. Et j'ai récupéré le contrat pour le franc symbolique et le master par la même occasion. Donc, partant de là, on devenait l'ensemble du groupe coproducteur. Le tout, c'était de se retrouver une nouvelle production. Donc, je retrouve un label. Mais tout ça, le temps a passé. Je retrouve un label, sortie prévue au mois de mai, donc de l'année suivante. Et 8 jours avant la sortie, le mec, infarctus, sa boîte à la rue. Et on se retrouve avec l'album. Et là, j'arrive. Il a été distribué par CBS. Donc, je suis débarqué chez CBS. Pas CBS, chez BMG, pardon. Je débarque chez BMG. Là, il m'appelait la tornade blanche. Et j'ai signé le contrat de distribution chez BMG. Mais, entre deux, je suis désolé, ça va prendre du temps. Entre deux, Jean-Louis, le batteur du groupe Image, m'appelle et me dit, écoute, on est en train de faire un projet avec Émile, on voudrait sortir un pot pourri de nos titres et des leurs, mais pour ça, on a besoin de l'autorisation de tous les membres du groupe. Dans la mesure, ils étaient tous co-signataires. Et puis, je dis, écoute, Jean-Louis, nous, on a un album sur le feu, déjà. Et moi, en tant que manager, je te dis non. Mais la moindre des choses, c'est que je leur pose la question, c'est à eux de décider. Je leur ai posé la question, est-ce que vous accepterez de donner l'autorisation des trucs? Et là, ils ont tous dit oui. Moralité, on s'est trouvé avec nos déboires de producteurs qui nous abandonnaient, enfin de labels qui nous abandonnaient en cours de route, on s'est trouvé face à TF1. Et là, ça a été la razzia, évidemment. Ils en ont vendu plus d'1,5 million. Nous, on a dû en vendre 1 500. Quoi. Donc, si ce n'est qu'il y avait des failles dans les contrats, notamment dans le contrat quand Émile a quitté le groupe, à savoir que dans les 10 ans qui suivaient la séparation, celui qui réenregistrerait des titres, indépendamment des droits d'auteur, c'est à part, au niveau des royalties, ils devraient partager avec l'ensemble du groupe et de l'ancien producteur. Et quand je tombe sur cet article, parce qu'on me l'avait soufflé, je suis à 3 semaines de l'échéance des 10 ans. Donc j'appelle mon avocate, puis je lui explique le truc, elle ne bouge pas. dans l'heure qui suivait, il y avait un référé, tous les droits ont été bloqués, au bout du bout, et Mila a été obligé de partager avec tout le monde. Donc, bon, physiquement, il me connaît, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais on ne s'est pas revus depuis, donc je ne sais pas du tout.
Compliqué, hein, le showbiz.
Oui, c'est compliqué, mais une fois de plus, ça avait été à l'inverse. Si j'avais été le manager d'Emile, je me serais bagarré de la même façon pour lui. Moi, je me suis bagarré pour mes gars parce que j'étais leur manager. C'était mon rôle de défendre. Et d'ailleurs, dans ce bouquin des petites histoires du showbiz, j'ai un lexique à la fin où je reprends tous les termes qu'on a dans notre métier. Donc ça va notamment qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'un producteur, qu'est-ce qu'un agent, etc. Moi je suis tombé sur des gars, moi j'ai été producteur de d'Aznavour. Je dis bon, en quelle année? Le gars me dit en telle année. Je dis écoutez, moi à ma connaissance, depuis plus de 40 ans, Charles est géré par un de ses amis de toujours qui s'appelle Devon Sayan. Donc je vois pas. Non, tout simplement parce qu'un jour le gars a acheté à Devon Sayan le spectacle de Charles Aznavour, il a loué une salle et il l'a produit. Il a pris des risques financiers, mais il n'est pas producteur pour autant. Donc tous ces termes, je veux remettre les pendules à l'heure. Pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui déjà, il est dans l'intimité de l'artiste. Déjà, c'est un homme de confiance. C'est un gars qui est, ou un gars ou une femme, mais vu par moi, maintenant je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais qui doit être capable de dire à ton coco, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais te faire voir. À savoir qu'il est capable de conseiller. C'est clair que je ne pouvais pas dire à Michel Sardou, attends, je vais te faire voir comment il faut faire. La question n'est pas là. Mais c'est que sur certaines choses, t'es là pour veiller à son image, veiller à sa carrière, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec un tourneur, avec un agent qui prend de l'argent quand il place, etc. Là, tu es au cœur de l'artiste.
En tout cas, c'est un homme de spectacle et un homme qui a passé une grande partie de sa vie au milieu du showbiz, hein, Guy Paqui, donc manager des Martin Circus, Marie Myriam, Hervé Villard, Sardou, Michel Thor et bien d'autres. Alors on retrouve toutes ces anecdotes dans Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs aux presses du midi. Et puis ça, c'est un comble, c'est le petit dernier. Alors là, c'est pour s'amuser et pour ne pas se prendre au sérieux.
C'est parce que quand je travaillais sur petite histoire du showbiz, j'ai un ami, Jean-Louis Chrétien, qui m'avait aidé à structurer, disons, le livre. Et sans arrêt, on passait tous les week-ends de 2h, 14h jusqu'à 2h du matin, quoi. Et sans arrêt, évidemment, il y avait toujours une blague qui fusait par-ci, par-là. Et puis un beau jour, il me dit, avec toutes tes blagues, il faudrait peut-être, pourquoi pas, le faire. Donc je lui ai amené le manuscrit des combles. Et là, il me dit, écoute, c'est très drôle, mais c'est fastidieux, quoi. Ce qui serait bien, c'est de trouver quelqu'un pour l'illustrer. Donc en un mot, très vite, j'ai passé une annonce sur Facebook. Un quart d'heure après, j'avais le contact de Roger Tisselin, alias Roth. Et on a travaillé par téléphone et par mail pendant 3 mois pour sortir ce bouquin. Et pour moi, c'est un peu ma légion d'honneur. La semaine dernière, j'avais mon éditeur au téléphone et il me dit, j'ai sur le bureau vos combles, ce sont des bonbons. Et il me dit, il est sur le bureau, entre deux coups de fil, je plonge la tête dedans. Donc voilà, ce sont, il n'y a pas de prétention. J'ai aucune prétention littéraire. Je veux bien être à la limite auteur puisque je suis à la SACEM et que j'ai fait pas mal de choses. Et là, par rapport au bouquin, j'ai 3 bouquins en cours. J'ai plein de choses. J'ai 2 albums, dont un de jazz en cours. Et puis il y a un gros sujet dont je ne peux pas parler. Mais que j'ai eu là une réponse de TF1 pas plus tard qu'il y a 3 jours et l'avenir est à nous.
Mais c'est formidable. Et puis cette participation à l'émission littéraire de Radion avec moi, et je t'en remercie. Ah
ben, là, je veux dire, pour moi, c'est une très belle rencontre parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps à Blanzy. Absolument. Et voilà, là, je suis vraiment ravi. Et à chaque fois que tu as besoin d'un coup de main ou tu as un trou, sache que je serai à tes côtés.
Un grand merci, Guy. Je rappelle les titres des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs, c'est aux presses du midi. Et puis le petit dernier, ça, c'est un comble. Comment ne pas se prendre au sérieux. Bonne journée, Guy, et merci d'avoir été avec nous.
Merci et de ton accueil. Et puis, je souhaite plein de bonheur à ceux qui nous écoutent. Et pour vraiment l'avoir, ce bonheur, il faut regarder la vie en face et ne pas se prendre au sérieux.
Merci Guy, au revoir,
à bientôt,
au revoir à toutes et à tous.